Bien, donc nous allons pouvoir reprendre ce symposium en l'honneur d'Anatole Abragham et nous allons commencer donc par le premier exposé de l'après-midi qui va être donné par le professeur Kurt Wüthrich qui est donc professeur au Scripps Research Institute à la Hoya et à l'École Polytechnique de Zurich. Et je crois qu'il n'est pas besoin de présenter le professeur Wüthrich qui a fait des recherches en résonance magnétique nucléaire pour la détermination de la structure des protéines et qui, pour ce travail, a partagé avec son collègue Richard Hans le prix Nobel de physique en 2002, je crois. Et donc, je vous donne la parole pour votre exposé intitulé « L'école française de RMN et la biologie structurale du 21e siècle ».
Merci. Chers amis et collègues, je vais d'abord décrire un peu ce qu'apporte la RMN à la caractérisation des structures de macromolécules biologiques. Et afin d'illustrer ce que j'aimerais bien mettre au centre de mon exposé, je parle pour quelques minutes des protéines prions. La protéine prion est assez unique, c'était entièrement unique il y a 20 ans, quand on a trouvé que la moitié de la chaîne polypeptidique est bien structurée avec des structures hélicoïdales, des flèches bêta, et la moitié en est non structurée. Si on regarde la molécule de plus près, on trouve des détails dans la partie globulaire, dans la partie structurée, dont je ne veux pas aller en détail. Et si on regarde ce que nous appelons la queue, on regarde que ça change avec le temps. Donc, vous voyez ici quatre images qu'ils ont prises à une échelle de temps de 20 picosecondes. Donc, la première image, la partie, c'est quand même d'une longueur de 120 acides aminés à cette forme. 20 picosecondes plus tard, ça a cette forme et ça continue. Et si je fais une superposition de vue pris sur 2 nanosecondes, c'est comme ça que ça se présente. Et vous voyez bien que la partie de l'espace conformationnel qui est couverte par la partie non structurée est bien plus large que la partie qui est couverte par la structure globulaire de la tête de cette protéine. Donc, cette protéine bouge, elle bouge sur une échelle de temps de nanosecondes ou plus vite, et comme je vais vous illustrer, elle bouge et elle fait bouger. Donc, d'où provient cette protéine? Elle provient du cerveau de la vache, ce que je viens. Et malheureusement, à l'époque où on a fait ces études, les jolies vaches suisses tournent en bêtes pénibles à cause de la maladie des vaches folles. Donc, quand on a fait on a déterminé cette structure, c'était les journaux le lendemain, couvache pour le prion, et vous voyez bien, c'était en Suisse en 1996, mais ça continue en France. Donc je cite du Figaro du 15 novembre 2000, « Vache folle, Jospin veut rétablir la confiance ». Et puis, Le Monde, du samedi 17 mars 2001, vache folle, Bernard Kouchner plaide en faveur d'une pédagogie du risque. Et entre les deux, donc il y a une période de 5 mois, des choses se sont passées. Le 14 novembre 2000, se réunissent les chercheurs sur les prions à Mérieux, à la Fondation Mérieux, au lac d'Annecy. Donc on était une bonne cinquantaine, je dois dire. Toutes les spécialistes étaient là, Prusiner, Guy Dussek, Weissmann, tout le monde. Et on discutait des problèmes qui se posaient en connexion avec la crise des vaches folles. En même temps, Jospin et le président de la République font une interview pour les journalistes à Paris et ils racontent quoi que ce soit. Et puis, les journalistes, ils louent une voiture, ils se déplacent chez nous et on fait une autre interview à Annecy. Donc, et puis, il y a, c'est M. Jean-Yves Nau qui rapporte devant le majestueux tableau représentant la leçon historique donnée par Louis Pasteur à quelques-uns de ses élèves. Ce devait être sur les berges du lac d'Annecy, dans les locaux de la Fondation Mérieux, une conférence de presse scientifique parmi d'autres, une rencontre depuis longtemps codifiée entre savants du haut niveau et presse soucieuse de communiquer. Ce fut mardi 14 novembre, tout à la fois cela et son exact contraire, la réponse de certains des meilleurs spécialistes mondiaux des maladies à prions aux déclarations faites le même jour à l'hôtel Matignon par Lionel Jospin. Et ça continue, l'erreur de M. Chirac, les professeurs Kurt Wüthrich et Chris Bostock ont dit l'urgence de mettre au point de véritables tests de dépistage chez l'animal comme chez l'homme. Ils ont signalé l'erreur qu'il y a à réclamer, comme l'a fait Jacques Chirac ces derniers jours, la mise en œuvre immédiate d'un dépistage systématique dans l'ensemble des bovins destinés à l'alimentation humaine. Donc, il y avait une suite à ça, puisque immédiatement après ces événements, le gouvernement français a organisé une autre réunion sur les prions au sein de l'Académie des sciences. Et il y avait une délégation de l'Angleterre, et puis il y avait peut-être, vous vous souvenez, quelques-uns de vous, et là, il y avait M. Jospin, M. Kouchner et M. Schwarzenbeck, qui, à l'ordre du président, étaient sur le premier rang et nous écoutaient pour une journée. Et après ça, il y a Kouchner qui plaide en faveur d'une pédagogie du risque. Bon, vous voyez, si on étudie les protéines avec la résonance magnétique nucléaire, on va bouger les protéines et puis les protéines font bouger les politiciens en mars. Donc, de quoi je parle aujourd'hui, c'est le mouvement moléculaire. Sur une échelle de temps de nanosecondes plus court. Nous avons deux problèmes devant nous. L'une, c'est que nous, on voulait déterminer des structures de grandes molécules en solution avec l'ARN. Afin d'y arriver, il fallait trouver des données qui sont invariantes sur les mouvements de translation et de rotation. Autrement, il n'est pas possible de déterminer une structure en solution. C'est tout à fait différent de la radiocristallographie ou d'autres méthodes qui travaillent avec du solide. C'est d'un côté. L'autre côté, c'est qu'une partie de ces molécules ne sont pas structurés et donc ils peuvent bouger de manière indépendante du noyau de la structure. Et donc, c'est de ces problématiques qu'on s'occupe en utilisant l'ARMN en biologie structurale. Et tout est relié à les mouvements browniens des molécules dans leur solution. Donc, en toute simplicité, si on a une petite poule dans un liquide, cette poule change de direction, toutes les diffusions translationnelles. En même temps, il y a des translations rotationnelles, enfin des mouvements rotationnels, stochastiques également, qu'on ne peut pas si facilement représenter. Si on a une boule qui est plus grande, la fréquence dont elle change de direction sous l'influence des mouvements thermiques du solvant sont à une fréquence bien plus basse. Et donc, au moment où nous sommes en train de déterminer une structure, disons protéinique, ou une structure d'ADN, de ARN, il nous faut séparer la partie des données qu'on utilise, par exemple l'effet Oberhauser. On a une partie qui dépend des mouvements browniens. Il y a une autre partie qui, afin d'être utile, doit être invariante sous rotation dans le liquide. Bon, dans une molécule comme la protéine prion des bovins, on a donc une partie qui fait des rotations comme un ensemble, comme une petite poule, et puis on a une autre partie où tout élément de la chaîne bouge de manière un peu indépendante, mais pas entièrement libre, puisque c'est lié de manière covalente avec ce qui suit, mais il y a plein de degrés de liberté, ça tourne autour des ponts chimiques, etc. Donc, il faut bien tenir compte de la partie structurée et des parties non structurées, et ça se raffine davantage. Vous avez là une autre image de la protéine prion. Vous avez en couleur les parties rouges qui bougent à une fréquence de 10 puissance moins seconde, 10 puissance 10 secondes, tandis que l'intérieur de la protéine est stable sur l'échelle du temps de, disons, 10 puissance moins 6 secondes. Donc on a d'une part cette espèce de fragilité ou de dynamique à la surface d'une globule protéinique, et en plus on peut avoir des queues étendues qui bougent en solution. Et c'est de ça qu'on va s'occuper sur le plan de la physique, de la RMN. Bon, moi, j'ai fait une éducation comme prof de sport, et c'était quand même un peu difficile pour moi d'aborder ces questions de molécules, de grandes molécules en solution, et de les traiter proprement. Donc, il ne me restait rien d'autre que de me lancer sur le fameux volume de Abraham, The Principles of Nuclear Magnetism. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec ce livre. Donc, on a fait des séminaires. J'étais à Berkeley à l'époque. Donc, vous voyez, ça commence sur la page 297. Et là, on est sur la page 323. Ça continue. Là, en page 25, il y a des centaines de pages que j'ai remplies avec des calculs. Les pas d'une équation dans Abraham à l'autre, ça nous a fait 15 lignes ou 25 lignes de développement mathématique. Et pour un prof de sport, ce n'est pas tellement facile au début. Et oui, ça continue, hein, je vous assure, il y a des centaines de pages. Je garde ça chez moi, c'est une pile assez importante. Et je l'ai fait de manière assez détaillée. Et bien sûr, ma copie du bouquin, c'est plein de marques que j'ai mis là-dedans. Et finalement, on a nous-mêmes, avec un étudiant qui était... Donc j'ai fait des exercices avec mes étudiants à Zurich et maintenant en Californie. Donc on lit toujours ces papiers et on fait les calculs. On essaye de refaire les calculs qui sont derrière toutes ces équations. Et donc Pete Loginbühl, il était un théoricien de physique qui avait... Bon, qui jouait beaucoup avec ça, et puis on a même publié notre version de l'adaptation de ce qui est dans la programme pour les molécules, macromolécules biologiques. Bon, à ce point, on avait essentiellement tout compris. On avait compris que s'il y a de petites boules en solution, et ça bouge à haute fréquence, donc c'est-à-dire les mouvements translationnels, rotationnels, ça change de manière stochastique à haute fréquence, et là, on se trouve dans un régime de physique de RMN. Et si ça bouge plus lentement, si la fréquence des mouvements browniens est plus basse, alors là, on est dans un autre régime physique de la RMN. C'est fait. Pour ça, on a compris, on a pu faire des structures tridimensionnelles des protéines. Mais il restait quand même une limitation sérieuse. Et là, je vais vous décrire un peu en détail ce qui s'est passé, puisque de nouveau, ça se base vraiment entièrement sur des recherches de base qui ont été faites par l'école française de RMN. Donc, où on en était à peu près en 1995, c'est qu'on a pu déterminer des structures de protéines, on a des structures de fragments de l'ADN, ARN, mais les poids moléculaires auxquels on avait accès étaient en dessous de 30 000 Dalton. Donc, c'est une taille... assez importante pour un chimiste organicien, mais pas tellement pour un biologiste. Et si on abordait des molécules d'une taille plus importante, on a perdu le signe, on n'avait plus de spectre. Donc, ce qui s'est passé, c'est si on travaille avec une petite protéine, et si on enregistre le signal RMN en le free induction decay, on a un signal qu'on peut suivre pour une centaine de millisecondes et la transformation Fourier nous donne une ligne étroite. Si par exemple on essaye de faire la même manip avec une protéine membranaire qu'on a reconstituée dans des structures de micelles, par exemple, et on est à un poids moléculaire de 100 000, alors là, on a le signal décroît très rapidement en fonction du temps. On a, si on observe quoi que ce soit, c'est une ligne élargie ou normalement rien du tout. Et maintenant, il fallait trouver une méthode qui rétablit la possibilité d'enregistrer des raies étroites bien résolues pour des poids moléculaires importantes. Et ça, on a accédé à ça il y a presque 20 ans avec ce qui est connu comme TROSI, Transverse Relaxation Optimized Spectroscopy. Et ça, c'est la publication là-dessus en PNAS. Et si nous regardons la liste des références, on trouve Solomon, on trouve Abregam, et puis je suppose qu'il y a d'autres, Goldman, vous voyez, tout ça se base sur les travaux qui ont été faits auparavant par l'école française de RMN. De quoi est-ce que je parle? Je parle de l'observation de résonance magnétique nucléaire des combinaisons d'un noyau d'azote 15 qui porte un spin de 1,5 et un atome de d'hydrogène qui également porte un spin de 1,5. Je vais presque uniquement parler juste de ces deux, cette combinaison de spin, mais je veux quand même ajouter qu'on a la possibilité d'ajouter des transferts de magnétisation de très loin dans ce groupement afin d'obtenir des informations sur d'autres parts de la molécule. Bon, avec deux spins, 1,5, on a un système avec quatre transitions. Donc on a alpha, alpha, beta, beta, les deux états mixtes, et on a quatre transitions. Et si on regarde, si on travaille avec une molécule importante, enfin de taille importante, disons de 100 000, comme celui-là, 110 000, on observe qu'on peut distinguer ces quatre transitions et on observe qu'une des quatre transitions n'est pas observable, deux sont élargies et il y a une transition qui résulte en une ligne qui est étroite et qu'on peut facilement enregistrer. C'est un peu, donc on peut exprimer ça avec l'évolution au temps des transitions, de single transition, des opérateurs de transition simple. Et tout ça, ça semble très compliqué. Ce qui est important, c'est qu'il y a là-dedans des termes de relaxation qui portent ou bien P plus delta ou P moins delta. Et c'est tout ce qui en reste à la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une différence entre le couplage dipolaire entre le proton et l'azote 15, et il y a l'anisotropie du déplacement chimique de l'azote 15. Et la même chose pour le même couplage dipolaire et la différence avec l'asymétrie du déplacement chimique du proton amide. Et tout ça, on peut trouver dans les vieux papiers, mais quand Goldman a fait cette théorie, les aimants étaient là. On était à 100 MHz ou 200 MHz et la différence entre l'étendue de ce couplage dipolaire et l'anisotropie du déplacement chimique était large et donc ça ne servait à rien. On ne pouvait pas découpler la RMN des mouvements browniens en se basant sur cette différence. Mais quand nous, on y a travaillé, on arrivait presque là, où les deux quantités sont égales. Donc cette différence P moins delta devient 0 et on découpe le spectre RMN de la fréquence des mouvements browniens. Et en plus, ça se passe, le minimum de cette différence est aux environs de ce qu'on peut achever à ce moment avec les champs magnétiques. On travaille à 800 MHz jusqu'à à ce moment à 1000 MHz et on va peut-être dépasser. Mais vous voyez, pour toute cette région, on a une situation presque idéale pour découpler la résonance magnétique nucléaire de la fréquence des mouvements browniens de la molécule. Bon, on fait des. Je ne veux pas dire que tout ça c'est simple. On fait des manips assez compliquées. Par exemple, ici, on pousse la magnétisation du protonamide sur l'azote et puis de l'azote au carbone alpha et puis on retourne au proton. Et on utilise, dans tout cela, on utilise cet effet Trousy sur le groupement NH. Et là, l'effet est frappant. Ce n'est pas un effet d'un facteur 2 ou 5, c'est un effet de deux ordres de grandeur. Si j'enregistre d'une protéine de 110 kilodalton un spectre de ce genre que je viens de vous faire voir, je ne vois rien. Si je regarde de plus près, je vois peut-être une indication d'une petite raie. Si j'utilise Trousy, j'ai des signaux et ça marche. Bon, on a poussé ça à des grandeurs un peu plus importantes. Donc ça, c'est un complexe formé entre le Croeyl et Croeyes. Donc ça a une taille de 970 kilodalton. Et ça en est le spectre. Donc on y est. Du point de vue physique, on peut maintenant travailler avec des tailles moléculaires de l'ordre d'un million de dalton. Du point de vue pratique, ça a ouvert une avenue pour l'étude des protéines membranaires. Comme je vous ai indiqué, les protéines membranaires doivent être reconstituées en solution afin d'être accessibles aux études structurales, soit par la radiocristallographie ou par le RMN. Et maintenant, nous sommes bien dans cette région où on peut travailler utilisant Trousy. Je vous montre ici une sélection de protéines membranaires dont la structure a été déterminée avec la RMN. Et aujourd'hui, dans mon labo en Californie, on travaille sur une catégorie de protéines membranaires qui sont d'un intérêt particulier pour la médecine, pour l'industrie pharmaceutique. À peu près 40% de toutes les médecines de prescription sont cibles des protéines de ce type. C'est les GPCR, G-Protein Coupled Receptors, et on travaille dessus confortablement avec l'usage de Trousy. Et bien sûr, si on veut arriver à des recherches de ce genre, il vaut bien qu'on ait étudié le bouquin d'Abraham à l'époque et qu'on n'oublie jamais ce qu'il y a là-dedans et comment il faut l'appliquer afin de comprendre comment ça se fait que les molécules, les macromolécules biologiques en solution ne sont pas uniquement mobiles en elles-mêmes, mais qu'elles font bouger des gens autour. Merci.